Vacances, le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Cinérama, saison estivale.
Y'a du soleil, y'a des nanas, na-la-di-la-na-na.
Cinérama l'été.
On va s'enfourrer jusque là, na-la-di-la-na-na.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Cinérama l'été, on se passe de l'actualité.
Eh bien, je dois reconnaître que vous n'êtes pas comme je m'étais imaginé.
C'est une blague.
Jamais très original dans ces moments-là.
Is Cinérama.
Bonjour et bienvenue à Cinérama l'été. Cinérama l'été, eh bien, c'est une émission qui n'est pas comme celle de toute l'année. C'est-à-dire que nous avons deux séries que nous vous proposons au cours de cet été 2025. Il y en a une sur les bandes originales de films. Alors, on travaille par décennie selon les émissions. Et pour cette émission, ce sera eh bien, la décennie 90-99. Donc, blind test, il faudra découvrir eh bien, 5 bandes originales de films. Et puis toi, Guillaume, tu as entamé une série sur un réalisateur français.
Oui, que j'aime partout particulièrement. Et on va continuer avec le Schpounz aujourd'hui, parce que vous l'avez compris, c'est sur Marcel Pagnol.
Et puis, on a une toute petite partie aussi actualité, et tu nous parleras d'un film qui est dans les salles.
Oui, The Last Stop to Yuma County.
Mais nous débutons avec le blind test, concernant les bandes originales de films.
Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est de la bouillie, tout ça.
Cinérama.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
Donc, le principe, il y a 5 extraits à deviner. Ce sont des films qui sont sortis entre 1990 et 99. Et ce sont plutôt des compositeurs emblématiques de cette période, tout du moins. Premier extrait. Alors, c'était facile.
C'est l'un des chefs-d'œuvre de et Jerry oui. Goldsmith. C'était pour Basic Instinct de Paul Verhoeven.
Oui, film de 1992. La musique d'ouverture de Basic Instinct joue un rôle central dans la mise en tension du récit. Le thème à la fois fluide et menaçant accompagne les jeux de manipulation de pouvoir entre les personnages. Goldsmith utilise un motif orchestral ample et trouble qui annonce dès les premières secondes l'ambiguïté morale et sexuelle
ouais.
du film, évidemment. Deuxième extrait de ce blind test, une bande originale d'un film entre 90 et 99. Alors, c'était pas trouvé, mais on en a discuté hors antenne, je t'ai donné des indices.
Eh oui, tu m'as donné le réalisateur et ça m'a fait tilt, c'est L'Amant.
Oui.
C'était composé par Gabriel Yared.
Eh oui, et pour ce drame intimiste inspiré de Marguerite Duras, Yared compose une musique lente, enveloppante, qui souligne la dimension sensorielle du récit. Alors, le thème principal mêle cordes et piano, plutôt avec sobriété, et puis ça accentue le contraste entre l'intensité de la relation vécue et la distance imposée par la narration. Et tout cela s'intègre parfaitement à l'image de ce film donc de Jean-Jacques Hano de 1992. Allez, encore un facile, aussi facile que Basic Instinct, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas trouvé. Je pensais que ça serait trouvé parce que quand il y a un piano dans une gare, c'est des choses qu'on entend habituellement.
Et puis, c'est pas faux.
Il y a Tiersen et il y a ça parmi les choses qui sont extrêmement reconnaissables, je trouve, dans les morceaux de piano. Alors, c'est un film qui est sorti en 93 d'une réalisatrice.
Ah, c'est la leçon de piano, oui. Alors c'est Jane Campion.
Eh oui. Donc, film sorti en 93 et la bande originale est composée par Michael Nyman. C'est un thème qui repose sur une structure répétitive au piano. C'est proche du minimalisme et ça reflète l'intériorité du personnage principal. La musique, évidemment, occupe une place centrale dans le film, car le piano, est le principal mode d'expression de l'héroïne. Et le morceau est à la fois narratif et émotionnel. Alors moi, je sais que quand je l'avais entendu, ce morceau de Michael Nyman, déjà, je m'étais intéressé à Michael Nyman, et puis ensuite à Philip Glass, parce que je recherchais ces musiques minimalistes. Et j'aurais pu mettre d'ailleurs un Philip Glass, mais j'ai décidé de ne pas le mettre dans ces blind tests.
Vous pouvez avoir la BO de Candyman, 92.
La BO de ?
De Candyman. Il a fait sa seule BO de film d'horreur. Lui-même ne comprenait pas pourquoi c'était intéressant de faire cette BO, mais il s'est laissé convaincre et c'est une parmi ses BO les plus mémorables des années 90. Mmh.
Allez, un nouvel extrait, donc une bande originale de film de la décennie 90-99. C'est trouvé.
Alors, si je ne me trompe pas, c'est Randy Newman ou Thomas Newman. C'était pour la BO, oui. En tout cas, ça c'est sûr, d'American Beauty, oui. De Sam Mendes.
Et c'est bien Thomas Newman. Ce morceau illustre l'approche singulière de Newman, faite de motifs simples et épurés. Alors, il donne une tonalité introspective au film en soulignant l'ennui, la frustration ou les moments de bascule. Alors, c'est basé sur quelques notes de piano, hein, ce thème, et une nappe de synthé un peu discrète. Et puis, ça accompagne les scènes les plus contemplatives de ce film mémorable de 1999.
Oscars, je crois,
hein. Ah, je sais pas.
Ouais.
Je n'ai pas l'info.
Il a eu pas mal de récompenses à sa sortie.
Allez, dernier extrait de ce blind test. Alors, c'est pas trouvé ici en studio.
C'est très joli, mais non, je botte en touche, là.
Alors, c'est une compositrice.
Ouais.
Et le titre du film, c'est le prénom d'une jeune fille. C'est Emma, film de 96. Et
c'est Anne Dudley ?
Non, la compositrice, c'est Rachel Portman.
C'était très joli.
Le thème principal de Emma est représentatif donc du style de Rachel Portman, mélodique, structuré et accessible. Il installe une atmosphère légère, propre à la comédie romantique d'époque, tout en respectant le ton ironique et tendre du roman de Jane Austen.
Ça ressemble beaucoup aux BO qui sont faites à cette époque, adaptées de films de littérature anglo-saxonne, surtout anglaise. Je pense beaucoup aux films de Kenneth Branagh, par exemple, si on écoute les BO de Patrick Doyle, c'est très très similaire pour Les Sentiments aussi, pour tous ces films-là.
D'accord. Merci pour la précision. Sachant que c'est intéressant de jouer avec toi à ces blind tests parce que tu es un fin connaisseur des bandes originales de films.
J'ai quand même quelques trous, comme vous avez pu l'entendre.
Allez, on se quitte avec un extrait d'un morceau mémorable. C'est celui de James Horner pour Titanic. Allez, nous passons à la deuxième série estivale de Cinérama. Elle concerne Marcel Pagnol et aujourd'hui tu vas parler d'un film, c'est le Schpoutz avec Fernandel, d'où est tiré un extrait mémorable avec Fernandel qui interprète bien une seule réplique de différentes manières, mais c'est un extrait que tu ne diffuseras pas.
Non, tout condonnero à la tête tranchée, j'ai fait exprès de ne pas la mettre.
Voilà, à vous d'écouter.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Après avoir parlé de La Prière aux étoiles, nous restons dans le domaine du cinéma contrarié. Alors cette fois, ce n'est pas au sein même de la confection du film, puisque celui dont il est question a non seulement bel et bien été réalisé, mais a en plus été un triomphe dont l'aura persiste encore aujourd'hui. Non, quand j'évoque un cinéma contrarié, j'évoque celui d'Irénée, un homme qui se pense fait pour le cinéma, mais qui va se rendre compte que le monde du spectacle est différent de celui qu'il imagine. Alors nous allons bien sûr parler du Schpoutz, ou l'envers rêveur d'un décor encore plus factice qu'il n'y paraît.
D'abord, l'oncle, sais-tu ce que c'est que le cinéma parlant ?
Oui, c'est une salle sans lumière où je m'ennuie énormément.
Tu as tort.
J'ai tort de m'ennuyer, mais dis-donc, je ne le fais pas exprès. Parce que moi, de m'ennuyer, ça m'ennuie. Mais le rapport avec ce papier ?
L'oncle, mon don de Dieu, c'est le cinéma.
Quoi ?
Oui, acteur, comédien, tragédien. Ça te fait plaisir, hein ?
Il vaut mieux le savoir. Comme ça, au moins, on est fixé. Et alors ?
Alors ? Une puissante compagnie américaine qui a une filiale en France m'a signé cet engagement. Écoute, entre la maison Verniquel et compagnie d'Hollywood et M. Irénée Fabre, moi, il est convenu ce qui suit. M. Irénée Fabre est engagé en qualité de comédien pour une durée de 3 ans. Et sa première création sera le rôle du Schpoutz.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Les explications après.
En 1938, Pagnol est conscient de l'extrême popularité que lui prodigue le cinéma. Il décide de le célébrer tout en dénonçant le miroir aux alouettes qu'il représente tout autant que l'intérêt parfois fumeux qu'il suscite chez les gens. C'est donc dans ce contexte que naît le Schpoutz, un film drôle mais aussi lucide qui, sous ses dehors de comédie populaire et sa poésie inhérente à son auteur, sert une véritable déclaration d'amour au cinéma et à ceux qui y croient trop. Le Schpoutz raconte l'histoire d'Irénée Fabre, un jeune épicier de village interprété par Fernandel. Irénée rêve d'être une grande vedette de cinéma, mais il est naïf, maladroit et un peu niais. Alors du moins, c'est l'image qu'il suscite chez les autres. Un jour, une équipe de tournage passe dans le coin. Les techniciens, moqueurs, décident de se payer sa tête en lui faisant signer un faux contrat. Irénée, persuadé d'avoir été découvert, monte à Paris et commence alors une odyssée à la fois pathétique et drôle où l'illusion du cinéma se heurte à la réalité du métier.
Mais qu'est-ce que c'est que le Schpoutz ?
Oh.
Le Schpoutz, monsieur. Le Schpoutz, c'est un rôle extraordinaire dans un film extraordinaire. Depuis 5 ans, on n'a trouvé aucun artiste pouvant l'incarner.
Aucun.
On a essayé toutes les plus grandes vedettes.
Toutes.
Tous les plus grands noms de l'écran, aucun n'a pu l'incarner. C'est Greta Garbo en homme, vous vous rendez compte ?
Monsieur, vous m'effrayez un peu.
Oui, il ne faut pas s'emballer. Moi, il me semble que dans la vie, monsieur est un Schpoutz, mais à l'écran...
Il serait encore beaucoup plus Schpoutz.
Oh, ça, c'est à voir.
Oh non, ça, mes enfants, moi, je donne mon avis, n'est-ce pas ? Ça, il est bien évident que ce serait subordonné à des essais.
On peut se tromper, moi.
Ah oui, mais alors... Ces essais qui sont la base de tout, quand les fait-on ?
Le Schpoutz, c'est un grand film sur le cinéma, justement parce qu'il en montre l'envers du décor. Les faux castings, les techniciens farceurs, les rêves de gloire déçus, les figurants méprisés. Et pourtant, à la fin, c'est le rêve qui gagne, ce rêve que l'on croyait naïf, risible, en un mot, impossible. Alors, je précise impossible pour les gens d'en bas, vous l'aurez compris. C'est un rêve qui devient réalité, non pas parce que le héros a changé, mais parce qu'il est resté lui-même. Le Schpoutz, c'est littéralement la mise en lumière de Pagnol, de sa façon de faire, l'authenticité qui triomphe de tout. D'ailleurs, le film se base sur une anecdote réelle survenue sur le tournage de Angèle en 1934. Lors des prises de vue extérieures, des curieux venus des villages alentours venaient assister au tournage. Parmi ces visiteurs réguliers, un jeune homme à la présentation, on va dire modeste, tentait de se faire passer pour une personne importante. Et donc, le chef opérateur, qui avait compris et son manège, le surnomma le Spoons. Alors, ce technicien et son équipe lui firent miroiter une grande carrière d'acteur, allant même jusqu'à lui faire signer un contrat bidon. Le mot qui compose le titre du film a d'ailleurs très certainement été créé par Willy Faktorovitch, directeur de la photographie de nombreux films de Pagnol, qui était d'origine ukrainienne. Il s'est inspiré du mot allemand Spund, signifiant bouchon, et donc par extension, enfant ou homme simplet, facile à duper ou à manipuler.
Mais alors dis, dans ce film-là, tu fais pleurer ?
Non.
Mais alors tu fais le traître ?
Non.
Tu chantes ?
Mais non.
Mais alors qu'est-ce que tu fais ?
Le couillon.
Ah !
Oui, je fais rire. Tu me mets dehors ?
Mais pourquoi ?
Il me l'a dit.
Ah mais non. Non, je t'avais dit le nom de Fabre sur une pitrerie. Mais je ne t'avais pas dit le nom d'Irénée. Ah. Mais tu fais beaucoup rire au moins.
Oh oui, et avec beaucoup d'esprit.
Et j'ai touché 50 000 francs. Hein.
50 000 francs ? Ce n'est pas une pitrerie, c'est une comédie. Alors, au cinéma, Irénée, c'est ton nom ?
Eh oui.
Oui, mais ce n'est pas tout ton nom. Tu t'appelles Irénée Fabre.
Ah oui, mais je croyais que parce que tu m'avais dit tout à l'heure.
Ah non, 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 non. Quand on a fait cette affiche, je ne t'avais encore rien dit. Alors, il me semble que par inadvertance, enfin, à partir de 500 000 francs de contrat, tu aurais pu mettre Fabre. D'abord, il y a tellement de Fabre que personne n'aurait pu savoir que c'était nous. Si nous ne l'avions pas dit.
Oui, mais toi, tu l'aurais un peu dit.
Oui, vous avez bien entendu. Puis après, il y avait la place de le mettre. Parce que tu comprends, rien que ton prénom, ça fait un peu prétentieux. Tandis que si tu associes toute la famille, eh bien, c'est plus modeste. Alors, ce que je t'en dis, moi, c'est pour toi.
Oui, oui, c'est pour moi.
Le film brille par sa morale, mais aussi par son thème profondément novateur pour l'époque. Alors, avant Elsa Popine, La Fête à Henriette, Boulevard du Crépuscule ou La Nuit Américaine, il met en scène une mise en abîme. En reprenant une anecdote de tournage, il met en scène une équipe de tournage filmée par la véritable équipe de tournage même, équipe qui est d'ailleurs à l'origine de l'anecdote initiale, Pagnol ayant l'habitude de garder les mêmes techniciens. Mais que nous soyons familiers ou non de l'univers du cinéma, Pagnol touche comme toujours à l'universel. Parce que qui n'a jamais été pris pour un schpounz, ce simplet aux yeux des autres, et qui ne trouve pas satisfaction dans cette conclusion au format l'arroseur arrosé, elle intégralement conçue par Pagnol, puisque le schpounz, le jobastre, le fada, finit par avoir raison dans son insistance et réussit à s'ouvrir les portes des studios pour y triompher comme acteur. Alors comme le dit René lui-même, moi je voudrais faire pleurer des gens et c'est exactement ce que fait ce film. Il nous fait rire bien sûr, mais il nous touche directement au cœur.
Merci Guillaume pour poursuivre cette série sur Marcel Pagnol. Nous passons maintenant au côté rediffusion qui s'ajoute aux deux séries. C'est la rediffusion d'un des blind tests de l'émission. On en a fait de nombreux et aujourd'hui, nous allons écouter un blind test sur Jim Carrey.
Vous avez tous lu ou entendu parler des enregistrements
Cinérama.
Mais peu savent exactement ce que signifie cette formule.
Rediffusion.
Maintenant que tu as donné envie d'en savoir plus sur la vie de Jim Carrey, on va jouer au blind test autour de sa filmographie. 5 extraits écoutés, ça va être évidemment très très facile. On commence.
Vous savez pourquoi je vous arrête ?
Ça dépend, il y a combien de temps que vous me suivez ?
Pourquoi on reprendrait pas tout depuis le début ?
Allons-y dans l'ordre, excès de vitesse, non-respect des distances, un feu rouge brûlé, une Chevrolet pratiquement emboutie, non-respect d'un passage pour piétons, changement de fil en plein carrefour, changement de fil sans clignotant, en brûlant encore un feu rouge, plus excès de vitesse.
Ce sera tout.
Non !
Ça a été trouvé.
C'est Menteur-Menteur.
Eh oui.
Shadyac, si je ne me trompe pas.
Oui, sorti en 1997, un avocat dont le métier est de mentir, en tout cas c'est ainsi qu'il est devenu un ténor du barreau, est condamné à ne pas mentir pour honorer un pacte fait avec son fils le jour de son anniversaire. Voilà. Et combien d'entrées en France ? 1 500 000. Voilà la réponse. Deuxième extrait.
Vous voulez jouer à qui sent le mieux ?
Ouais. C'est quoi ?
C'est compliqué. Écoute avec attention. On garde la fenêtre fermée, le prom, ça sentira un peg, gagne un point. S'il dit de qui ça vient, il double son point.
Mais s'il dit qu'il y a eu un paix et que c'est pas vrai, c'est juste qu'on est passé près d'un abattoir.
Faux paix.
Il perd un point et on n'a pas le droit de sentir ses propres paix.
Vous déconnez, là.
Non, non, j'ai pas l'intention de rester assis là à renifler vos paix comme un cochon truffier. Laissez tomber.
Bon, bah très bien, on va se faire une partie à deux.
Un tête à tête.
Mais comment on fait une partie à deux ? Si on sent un paix et qu'on l'a pas fait, c'est obligatoirement l'autre.
Je
croyais que tu y avais jamais joué.
Krusen, ça a été trouvé évidemment.
C'est de Dumb and Dumber.
Des frères Farrelly sortis en 94 avec Jeff Daniels. Alors après un malentendu à l'aéroport, deux amis Lloyd et Harry, spécialistes de l'élevage de lombrics, c'est ça, partent à la recherche de Mary qui semble y avoir oublié sa valise, mais ils se retrouvent eh bien au centre d'un complot. En termes d'entrée, 636 000 en France. Troisième extrait.
Vous prenez ça pour quoi ?
Oh, non, non, c'est rien. C'est un truc stupide. Je dois prendre un comprimé toutes les 6 heures, sinon je me sens barge. Mais c'est pas grave.
Ça s'appelle comment ?
Je suis victime de schizophrénie avec psychose paranoïaque et délire narcissique.
Ah.
Ça a été trouvé.
Et c'est donc Food Irene, toujours des frères Farrelly.
Oui, on bisse avec les frères Farrelly. Donc là, c'est un film de 2000. Policier souffrant de troubles de la personnalité, et pas des moindres, Charlie Bell Gates doit escorter Irene Waters dans un autre état où elle est recherchée pour une grave violation du code de la route. Mais le policier eh bien, oublie ses médicaments. Et Hank, son alter ego, refait surface. 802 000 entrées en France. Quatrième extrait.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Il faut que je te dise un truc.
J'ai pas le temps, j'ai du boulot par-dessus la tête.
Je suis sur quelque chose d'énorme, Marlon. Quelque chose de pas clair.
Qu'est-ce que t'as ? T'as l'air en vrai.
Je crois que je suis impliqué dans un truc malgré moi.
Ah oui ? Comment ça ?
J'ai aucune explication cohérente pour l'instant, mais j'ai constaté toute une série de phénomènes. C'est pas... Quand j'ai voulu prendre un ascenseur tout à l'heure, le fond avait disparu, tu te rends compte ? Et j'ai eu le temps de voir qu'il y avait plein de monde derrière. Et quand j'écoutais la radio en allant au boulot, tout à coup, ils se sont mis à me suivre à la trace et à commenter tout ce que je faisais.
Ça n'a pas été facile, hors micro en tout cas, donc ça a été trouvé quand même.
Oui, c'est Truman Show, donc de Peter Weir.
Film de 1998, plongé dans un monde orwellien dans lequel eh bien, est racontée la vie de Truman Burbank, star d'une télé-réalité, filmée à son insu 24 heures sur 24, et tous ceux qui l'entourent donc sont des acteurs, 1,6 million d'entrées en France. Et Jim Carrey remporte son premier Golden Globe pour ce rôle. Voilà, seulement donc en 98, il n'a pas remporté énormément de prix, ai-je vu, en tout cas. Dernier extrait.
La Saint-Valentin, c'est dans 3 jours quand même. Je veux faire le point. Je tiens à prendre les devants. Alors je l'ai appelée et elle a changé de numéro. Donc je suis allé au vieux grenier pour lui acheter quelque chose. Je voulais passer à son travail pour lui souhaiter la Saint-Valentin un peu en avance et... Vous n'allez pas le croire. Elle était là avec ce gars qui était très jeune et... Et alors elle m'a regardé comme si on se connaissait pas.
Trouvé.
Oui, c'est Eternal Sunshine.
Of the Spotless Mind de Michel Gondry, sorti en 2004. Clémentine décide d'effacer de sa mémoire l'histoire d'amour qu'elle a vécue avec Joël. Et puis, eh bien, ce dernier l'apprenant décide de faire de même en contactant la société Lacuna qui se charge de l'intervention. Mais en pleine procédure, eh bien, il revit tous les souvenirs de son histoire avec Clémentine. Et Joël change d'avis. Il tente d'interrompre le processus et s'engage alors une course contre la montre à 655 000 entrées en France. Le titre québécois est du soleil plein la tête. Mais la meilleure traduction, ce serait l'éclat éternel de l'esprit immaculé. Oscar du meilleur scénario original, en tout cas pour Charlie Kaufman et Michel Gondry. Il
faudrait quand même saluer le doubleur un peu de Jim Carrey, hein, parce que c'est quand même super chaud de passer derrière un tel comédien. Et on l'a revu avec ses extraits, les doublages sont quand même énormes.
Hein. Tu fais très bien de le remarquer, parce que entre The Mask, que j'ai revu hier, et puis Eternal Sunshine of the Spotless Mind, enfin, il y a vraiment un fossé en termes d'interprétation. Voilà, ça c'est clair que là, ils ont trouvé un très bon acteur pour doubler Jim Carrey. On se quitte avec la musique de Jim Carrey, ça pourrait être ça. Change your heart. Look around you. Évidemment, ça c'est la fin d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, donc une version bon, un peu sérieuse de Jim Carrey, mais il y a aussi ça.
Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba, un joie des maracas se fait tic 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 et boum tic tic et boum. C'est moi Sancho le plus belle, la coqueluche de tous les voisins, et puis quand je danse tout redevient tic tic et boum tic tic et boum.
Ainsi s'achève ce blind test autour de la filmographie de Jim Carrey, puisque nous parlions du livre L'Amérique démasquée, que vous pouvez trouver et offrir à Noël.
This is Cinerama. Cinerama. Cinerama.
Vous venez d'écouter une rediffusion d'un des blind tests, des nombreux blind tests de Cinerama. On en arrive maintenant à bien au côté actualité de l'émission estivale de Cinérama. Nous allons parler de Last Stop Yuma County, un huis clos sanglant au cœur du désert américain.
Dans mon métier, on demande parfois aux gens des choses bizarres.
Mais enfin, qui êtes-vous ?
Cinérama. Cinérama.
Il y a 31 ans, Pulp Fiction de Quentin Tarantino gagnait la Palme d'Or et achevait de consacrer une nouvelle génération de cinéastes indépendants américains, faits de récits référentiels, hein, malins hein, dans l'utilisation de leur petit budget, axés sur des personnages extravagants et reposant sur de longs dialogues interrompus par de brefs mais intenses explosions de violence. Le résultat inévitable de cette nouvelle vague dont Tarantino était le chef de file est que nous avons vu naître dans les années 90 une multitude de films imitant ce style, hein, des films qui non seulement transformaient l'esthétique et l'ambiance du film noir en de nouvelles formes tragico-burlesques, mais le faisait avec une énergie et un panache que l'on pouvait trouver parfois tape à l'œil, mais que l'on regrette quand même un petit peu beaucoup aujourd'hui, hein, à l'heure où les règles élémentaires de la grammaire cinématographique ne sont plus connues des metteurs en scène, et où le plan fixe vide de tout sens et d'énergie a pris le pas hein, sur un découpage plus travaillé, hein, témoignant d'un amour sincère de la caméra.
Hey, darling. Where to your front court?
If you try anything stupid, I'll shoot you in the face. Understood? You learn something new
that very day. Oui, ce qui fait la force de The Last Stop hein, et Numa County, hein, c'est son aspect totalement anachronique. Le film de Francis Galluppi, hein, inconnu, dont c'est le premier long métrage, s'initie une œuvre hein, qui aurait été un hit de vidéoclub assuré dans les années 90. La VHS aurait été soigneusement rangée entre Pulp Fiction donc, hein, et Une nuit en enfer sur l'étagère vedette de l'établissement, celle qui est toujours vide pour cause de location intempestive. The Last Stop et Numa County est un thriller policier en temps réel se déroulant dans un lieu unique, dans une station-service jouxtant un hôtel, le tout bah, sous le soleil brûlant de l'Arizona. Comme son pitch et son nom l'indiquent, c'est une pure série B concise, précise et élégamment emballée hein, qui tourne autour d'un braquage de banque qui a mal tourné. La station-service accueille toute une série de personnages qui attendent patiemment l'arrivée d'un camion-citerne pour faire le plein d'essence, mais le problème est que bah, dans ce lieu désertique, il y a non seulement les deux braqueurs de banque recherchés, mais aussi une série de, personnalités hein, qui vont aider à leur manière à faire en sorte que la tension monte et que la situation se dégrade au-delà du concevable. Autre point hein, qui ancre complètement le film dans ce courant des années 90, le fait que l'action se déroule à une époque intemporelle, sans marqueur de temps, à mi-chemin entre ce qui nous rappellerait les années 50 et les années 90 donc. Il n'y a aucun téléphone portable, mais au contraire des téléphones à cadran, des tenues vintage, de vieilles voitures, des coupes de cheveux à la Chris Isaac, tout cela convoque une certaine représentation de l'Americana à la fois sans âge et révolue.
I got an idea. I want some of that money.
Do it already, darling.
What's the plan now?
Le style de Francis Galluppi s'impose dès le premier plan. Hein. Progressivement, on passe d'un décor de route désertique que n'aurait pas renié le jeune Steven Spielberg de Duel à la perversion savamment orchestrée de Night Hawks, hein, le plus célèbre tableau d'Edward Hopper, illustrateur d'une certaine Amérique légendaire. Le personnage principal hein, des calques physiques d'Anthony Perkins dans Psychose hein, va précéder hein, la mort en marche et se retrouver malgré lui pris dans un engrenage fatal qui fait basculer Yuma County hein, dans les considérations philosophiques du trésor de la Sierra Madre. Car au-delà du danger immédiat, bah, y a aussi l'argent hein, que ces braqueurs ont caché dans leur coffre et qui s'avère être une tentation redoutable. The Last Stop in Yuma County hein, s'achève d'une manière nihiliste, elle aussi héritière hein, d'un monument des années 50.
Ce film est projeté dans les salles françaises depuis le 6 août.
Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même.
Comme vous êtes bizarre.
Oui,
c'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec nos deux séries, l'une sur Marcel Pagnol et puis l'autre sur les bandes originales de films. C'est Cinérama et c'est toujours l'été.